l'envol de Ndongolo.
Mois et 2 mois. C'est le temps qui sépare Ndortel et Aduna. 38 mois entre la première et l'ultime production de Ndongolo. Comment est-ce qu'un chanteur dont la carrière a duré moins de 4 ans a-t-il pu marquer et continue de marquer les mélomanes sénégalais 17 ans après sa disparition? C'est le 15 janvier 1975 que né à Pikine Ndongo Nyan, fils de Babacar Nyan, dit Manik, et de Marie Toufal. Manik donne à son fils le prénom Ndongo, en référence à un de ses amis bijoutiers, Ndongolo. Et toute sa vie, l'artiste gardera ce nom d'usage. Manik Nyan, après avoir passé une dizaine d'années à Fanok, où il s'était installé dans les années 40, achète un terrain dans la toute nouvelle ville de Pikine. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, la démographie de la ville de Dakar explose, essentiellement le quartier de la Médina, dont la densité de population devient problématique. Une première décision est prise de créer une extension de ce quartier, Grand Dakar. Mais cela ne suffit pas à soulager la pression démographique. Et c'est donc dans ce contexte, en 1952, qui est créé derrière la zone verte des Niaï, la ville de Pikine. L'endroit choisi appartient à l'époque au domaine national sous le titre foncier 3892. C'est alors le seul endroit facilement constructible. Les plans de la nouvelle ville sont dessinés par le français Michel Ecochard. De nombreuses familles sont malheureusement déguerpies de la Médina, de Fas et de la Gueultapé. Et ce sont ces noms qu'on retrouvera à Pikine, comme une transposition de Dakar dans la nouvelle ville. C'est donc dans cette ville nouvelle que Manik Nyan achète un terrain avec ses maigres économies et installe sa famille, devenant un des premiers habitants de Pikine. En 1975, année de naissance de Ndongolo, Pikine est devenue une ville surpeuplée. Environ 160 000 habitants recensés à l'époque, par la concomitance du prix des loyers et surtout l'exode rural. Hors élection, l'État ne s'intéresse guère au développement de la ville, avec toutes les conséquences qui peuvent résulter d'un tel abandon. Plus qu'une zone de décongestion, Pikine est devenue aussi une zone d'accueil pour tous ceux qui viennent de l'intérieur du pays pour tenter leur chance dans la capitale. Le brassage naturel entre déguerpis de modestes conditions et immigrés ruraux donnera à Pikine son identité. Identité qu'on baptisera plus tard Pikinité. La paternité de ce concept, selon certaines sources, appartient à Feu Omar Jombay. Ndongo en est imprégné dès son plus jeune âge. Son père l'inscrit à l'école coranique quand il a 8 ans, mais ce n'est pas l'enfant le plus assidu qui soit. Il s'autorise souvent des absences pour s'adonner à une de ses premières passions, la fabrication de vélos miniatures en aluminium, entre autres. Et Ndongo n'apprendra jamais à lire et à écrire le français. Il traîne toute la journée avec ses amis du quartier et son père, las de ce désœuvrement, l'envoie en 1990 à Khelkom, pour cultiver les champs de Serigne Saliou Mbake. Car dans la famille Nyan, on ne plaisante pas avec le nigot. À son retour de Khelkom, d'où il reviendra transformé spirituellement, Ndongo, talibé de Serigne Fallou comme son père, est pris comme apprenti dans l'atelier de menuiserie métallique de son frère Pape Nyan. Mais il sait, il sent que ce métier ne sera pas le sien. Il ne se rêve pas encore star de la musique, mais il prend beaucoup de plaisir à chantonner lors des séances de Simb, Folion, et surtout il devient un admirateur invétéré d'Alla Diop. Alla Diop est un chanteur religieux, à la voix extraordinaire qui a très tôt choisi la voie du chant mourite plutôt que celui du malakh. Son père lui avait formellement interdit de fréquenter les studios et orchestres modernes sous peine d'une sanction divine. Ainsi, Alla emprunta une voie jugée plus conforme aux préceptes familiaux, devenant rapidement très populaire dans la banlieue. Ndongo, à force d'assister assidûment aux prestations d'Alla, franchit le pas et le supplie de le laisser tenter sa chance, ne serait-ce que le temps d'un bout de chant. Alla l'y autorisa et fut estomaqué par le talent vocal du jeune Pikino. Il faut dire que Ndongo a de qui tenir. Son grand-père maternel, Alioune Fall, était un très grand interprète de Khassaïd qui a entre autres formé l'illustre Ablaye Niang.
Alin fala sa mama mo ju si di fal si de apply nan yo dan waqti mama ke dan we ji sa di mo moy bamba kon way la warna ma yo mbake.
Il décide donc de prendre Ndongo sous son aile et d'en faire un de ses choristes. On peut considérer que c'est le premier à donner sa chance à la voix de Ndongo. Et à partir de là, beaucoup de choses vont changer. Alla Diop se produit tous les jeudis à Guinaouraï, chez un cheikh de la Khadria, le célèbre Boynar. Et c'est pendant une de ces nuits religieuses que Ndongo fait la connaissance d'un autre jeune Pikinois très talentueux, Yves Nyan. Les deux se lient instantanément d'amitié et le duo se fait rapidement un nom dans l'univers des cibles. Le milieu pikinois bruisse du talent des deux jeunes hommes. Mais cela ne suffit pas à rendre meilleures leurs conditions de vie. Assez modestes, il faut le dire. Parallèlement à leur petite activité musicale, ils sont marchands ambulants. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont cru et véhiculé comme information, Ndongo ne vivait pas dans la misère. Il était certes démuni, mais il avait quitté le domicile familial, surtout pour éviter les confrontations nocturnes avec son père. Si le vieux Mbanik n'avait eu aucune objection à le voir seconder Alla Diop, bien au contraire, il avait en revanche toujours exprimé sa réticence face au monde musical moderne. Ndongo devait donc user de subterfuges pour que son père ne sache pas qu'il avait mis un pied dans ce monde. Les destins d'Yves Nyan et Ndongolo empruntent un chemin commun. C'est le premier, déjà bien introduit dans le microcosme musical de Sandaga, qui présente Ndongo à celui qui deviendra son manager, Dili Nyan. Dans la foulée, Ndongo fait la connaissance de Mayassine Diop, un producteur de clips qui collaborait à l'époque avec Tala Diagne. Mayassine avait comme projet initial de produire Alla Diop, mais devant la réticence de ce dernier à chanter du malakh, il finira par se rabattre sur Ndongolo. Mais ce sera après la première intrusion professionnelle de ce dernier dans la musique. Nous sommes en 1999 et le percussionniste du Super Diamono, Papa Ndiaye Gueul, anime tous les jeudis une soirée sénégalaise au Ravin, boîte de nuit courue de la banlieue, propriété du musicien Alassane Gom. Ces soirées ne désemplissent pas et tous les talents de Pikin et alentour s'y bousculent, y compris donc Ndongo et son acolyte Yves Nyan. Papa Ndiaye est très intéressé par le talent d'Yves, uniquement, et projette de l'inviter à participer à son album apparaître, AOI. Il commence même à répéter quand Yves met fin au projet assez rapidement. Son grand frère, l'excellent chanteur messenian, Hasewali, l'invite en effet à aller en Finlande afin d'effectuer une tournée de quelques semaines. Tournée qui, au final, durera une moitié d'année. C'est là qu'on se dit que le destin est parfois taquin. Car c'est ce voyage d'Yves Nyan qui va ouvrir les portes de la célébrité à Ndongolo. En effet, c'est vers lui que se tourne Papa Ndiaye Gueul, pour enregistrer finalement l'album AOI et Ndongo éclabousse de son talent le morceau Deg Deg. L'album paraît en 2000 et la chanson devient un des tubes de l'année. Salam Diallo, conquis par le talent du Pikinois, lui propose également de l'accompagner dans un de ses tubes, Nienyo. Nongolo est ainsi de plus en plus demandé sur la scène du Ravin et sa voix se fait de plus en plus audible à la radio. À tel point que les demandes de production commencent à affluer. Michael Souma, qui est aussi un formidable dénicheur de talent, souhaite le produire sous le label Club Sono Mondial. Au même moment, Tala Diagne a les mêmes vues. Et il a un avantage, sa proximité avec Papis Konaté. Papis Konaté est celui qui a arrangé l'album de Papa Ndiaye Gueule. Par conséquent, il a l'avantage de connaître Nongolo professionnellement. Et c'est tout naturellement qu'il va s'engager avec Tala Diagne dans la production de son tout premier album, Ndortel. Papis Konaté est l'architecte de l'opus, mais il est aussi celui qui a posé les fondations de l'orchestre de Nongolo, qui portera le nom Groupe Diam. C'est lui qui va structurer l'équipe qui accompagnera l'éphémère carrière du phénomène pikinois. Ndortel est enregistré en moins d'une semaine au studio 2000 et paraît en octobre 2001. C'est un immense succès commercial et artistique qui ne profite pas vraiment à son auteur. En effet, le cachet total payé par Tala Diagne est de 500 000 francs CFA, versé par petits bouts, 25 000, 10 000, 50 000. Une misère comparée à la popularité de chansons telles que Mangi Dor, Mayai ou encore Pikin. Ces titres sont le choix exclusif de Ndongo, pour qui les deux mamelles de la réussite sont sa famille, sa maman particulièrement, et sa ville, Pikin.
Mais a biga e fa biga 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 dolei vai fa e já se liga dolei ma é moi dolei vai fa dolei te viro dolei vai fa biga milere biga
La sortie de ce premier album attise les convoitises. Les producteurs en tout genre tentent de tirer profit du talent de la nouvelle star de la banlieue. Ils profitent du manque de structure managériale autour de Ndongo pour lui faire signer des contrats de prestations en playback qui ne sont plus en adéquation avec la carrure de l'artiste. Et c'est comme cela que Ndongo accepte de signer un contrat pour une tournée en Italie et en Angleterre en décembre 2002. Les conditions sont médiocres. Tellement que cela conduit au départ de Papis Konaté, pierre angulaire de l'orchestre. Et c'est là qu'Habib Faye va entrer en scène. En 2000, quelques mois avant la sortie de Ndortel, premier album donc, Chuck Berimoup, choriste et animateur du groupe Kagou de Kinelam, présente Ndongolo au maître à jouer du Super Étoile. Chuck Berry a décelé tout le talent intrinsèque de Ndongo et dit à Habib qu'il s'agit là du plus grand potentiel vocal du Sénégal. Chose qu'Habib constate assez rapidement d'ailleurs. Et il dit à Nongo, tôt ou tard, sache que je travaillerai avec toi. Donc en 2001, juste avant l'enregistrement de Nortel, Nongolo retourne voir Abib et lui fait part de sa déception quant aux conditions du contrat qu'il a signé pour son premier album. Il supplie Abib de racheter l'engagement à hauteur des 500 000 francs déjà versés par Tala Diagne. Abib l'écoute et lui conseille de respecter sa signature. Il n'est pas besoin de se faire des ennemis dans un tel milieu. Et il lui dira une fois encore, un jour, Nongo, tôt ou tard, nous travaillerons ensemble. Et ce jour arrive en 2003. Nongo est libre de tout engagement et signe un contrat avec la maison de production d'Alioune Petit Mbaï, Major Production. Outre ses activités dans la lutte sénégalaise à travers Action 2000, Petit Mbaï avait un pied dans la production depuis une demi-douzaine d'années. Il avait en effet dans son portfolio musical, les réalisations des albums d'Alioune Bender, Beye Faye ou encore Tiendo. Après s'être assuré de la viabilité du projet auprès d'Abib, il décide donc de financer le deuxième album de Nongolo qui portera le titre Tatris. Nongo, par ce titre, voulait rendre hommage à un de ses amis, Bakan, qui avait l'habitude de lancer Tatris Marrakis. Bakan était très connu à Pékin pour sa participation aux séances de Mapat. Mais avant même d'enregistrer les morceaux de cet album, Abib, perfectionniste, tient à gommer les scories qu'il a décelées dans la voix du chanteur pékinois. Il avait constaté que Nongo avait du mal à chanter haut par habitude. Il s'était installé dans un certain confort vocal et peinait à alterner voix aiguë et voix basse. Abib lui fait donc faire des exercices le jour, comme un prof de chant classique. Et le soir venu, charge à Nongo de mettre ce qu'il a appris en application lors de ses soirées. Ce n'est qu'au bout de longues semaines de préparation que commence l'enregistrement de Tatris, dont une partie des textes est écrite par Aziz Fall, l'acolyte musical d'Abib Faye. Aziz lisait les textes à Nongo à haute voix. Pour rappel, Nongo ne savait ni lire ni écrire. Et ce dernier, qui était doté d'une mémoire prodigieuse, retenait tout et le restituer à sa manière. Cette capacité bluffera Aziz et Habib, Dongo se permettant même d'ajouter des mots ou d'amputer le texte selon son feeling. Tatris paraît en février 2003 et le produit est à la hauteur des attentes. Les 8 morceaux qui constituent l'album sont d'un niveau extraordinaire. Habib invite même son frère Lamine Faye, prodigieux guitariste, à jouer sur le morceau Limadone, qui sera un des tubes de Tatris. Et Habib dira plus tard que le morceau sur lequel Dongo l'a vraiment impressionné est le dernier de l'album, Diamalay. Habib raconte qu'ils ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour enregistrer cette chanson. Car, dit-il, Dongo faisait un blocage quand il s'agissait d'alterner haut et bas. C'était un refus inconscient. Habib lui fit patiemment reprendre phrase par phrase, couplet après couplet la chanson pour obtenir le résultat qu'on entendra sur toutes les ondes. Dongo dira après coup « Grand, en s'adressant à Habib, je réalise que je ne savais pas vraiment chanter. Maintenant, j'ai compris. » Tatris est un des albums de l'année 2003. Et 19 ans plus tard, on peut encore l'écouter et en apprécier la qualité. Un album ne vaut que par sa pérennité. Dongo et le groupe Diam se produisent régulièrement au Ravin, mais aussi sur toutes les scènes du Sénégal ou presque. Son talent n'est plus confidentiel, limité à la banlieue. Et les promoteurs de spectacles font la queue. Et malheureusement, Dongo n'a pas une organisation à l'aune de son talent. à l'image de la tournée américaine dans laquelle il s'engage en décembre 2003. Du 23 décembre au 15 janvier 2004, Ndongolo et le groupe Jam sillonnent les États-Unis. Et les prestations restent dans les mémoires. Le revers de la médaille, c'est la fuite de deux musiciens dès que le groupe Jam arrive aux États-Unis. C'est aussi des problèmes personnels qui opposent Ndongo, certains musiciens, notamment les jumeaux Ousseinou et Hassan. Ndongo n'est pas un homme à poigne, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la conciliation. Les conflits l'épuisent et il ne tarde pas à refaire appel à Papis Konaté pour mettre de l'ordre dans sa formation. Mais ce qui épuise aussi Ndongo, c'est la maladie. Il maigrit à vue d'œil et son entourage s'inquiète. 2004 est marqué par des prestations scéniques haut de gamme, mais aussi des séjours réguliers à l'hôpital. Malgré ces difficultés, Ndongo envisage d'enregistrer un nouvel album. Il se heurte alors au refus de Petit Mbaye de le produire une deuxième fois. Ce refus est motivé par l'absence de caution artistique d'Habib Faye, car ce dernier considérait que Ndongo devait laisser vivre l'album Tatris avant de sortir un nouvel opus. Ndongo insiste malgré tout auprès d'Habib. Il lui fait part d'une proposition qu'il a reçue d'origine, la maison de production d'Elhaj Ndiaye, propriétaire entre autres du studio 2000 où Ndongo a enregistré tous ses albums. Devant l'assistance de Ndongo, Habib lui accordera son blanc-seing moral. Ce qu'il a compris par la suite et qu'il ne pouvait pas percevoir à l'époque, c'est que Ndongo préparait sa sortie. Et c'est donc autour de Papis Konaté que le groupe Jam enregistre le troisième et ultime album de Ndongolo, Aduna. A posteriori, on constate qu'Aduna, sorte de continuité de Tatris, est un message d'adieu de Ndongo. Dans le premier morceau intitulé Galas, il ouvre avec ses paroles. Ndongo fait preuve d'une maturité vocale exceptionnelle. Il aura assimilé en un temps record les codes qui font d'une belle voix un très grand chanteur. Un mix entre Youssou N'Dour et Ndiaga Mbaye. Le morceau Giacarlo trust les sommets du hit parade et l'album est acclamé par les mélomanes.
Sama xol bi len ni pare di saflu neex
gin ma bagel wi bagel oy bagel bari do digal dara ganul neex ka jakar lol ci nga bëgg dara ganul neex ngeen di waxtaan ci ba ci dara ganul neex ngeen di waxtaan ci rekano bay sen seri ndey solo jam dara ganul neex ka jakar lol ci nga bëgg dara ganul neex ngeen di waxtaan ci ba ci dara ganul neex ngeen di waxtaan ci rekano biram sen seri mang pem lay wax dara ganul neex ka jakar lol ci nga bëgg dara ganul neex ngeen di waxtaan
Hélas, peu de temps après, la maladie le rattrape définitivement. Et Ndongo finit par perdre son combat contre elle le lendemain de son 30e anniversaire, le 16 janvier 2005. Sa mort n'a laissé personne indifférent. C'est comme si une chape de plomb s'était abattue sur le pays. Une émotion incroyable qui ne s'explique que par l'amour que lui portaient tous ceux qui l'avaient entendu chanter. L'étoile filante a laissé une trace indélébile dans notre ciel artistique et beaucoup l'ont vraiment découvert et aimé après sa mort. Ndongo aura été un digne représentant de Pikin, comme le fut Mohamed Ndao Taizem. Il a été le magnifique porte-étendard de la banlieue qui ne manque jamais de lui rendre hommage des années après sa disparition. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Ala lu borom barke nga dinu lay jeri ñoo do jeri sa bop yarul yow la nu la ñeen su benen yonete do su matal ci min rew ci senegal rew dara oh, oh.